Gaston Pavlovski, Cauchemar à trois dimensions. Bien des gens ignorent qu'il existe une race spéciale de souris japonaises qui sont privées du sens de la troisième dimension. Elles peuvent se mouvoir aisément sur un plateau de lac, mais elles n'arrivent jamais à s'en sortir et à s'en échapper lorsqu'il s'agit de franchir les bords. Le sens d'un déplacement en hauteur leur manque absolument. Elles ne comprennent que deux dimensions et ne vont jamais de droite ou de gauche que sur un même plan, rappelant ces coques que l'unique dimension d'une ligne noire droite trace à la craie sur le sol hypnotise. On pourrait croire tout d'abord qu'il s'agit là tout simplement d'une amorphie et d'une lésion de certains centres nerveux. On sait en effet que certains animaux, à la suite d'un accident ou d'une piqûre, se trouvent entièrement désorientés ou tournent sur eux-mêmes jusqu'à l'épuisement, sans reprendre conscience du tout de l'équilibre des choses. Ici, il n'en est rien. La petite souris japonaise, à l'état sain et normal, ne conçoit que deux dimensions. Elle pourrait organiquement tout aussi bien grimper, se déplacer en hauteur. Mais c'est une conception qui lui manque, quelle idée ne lui en vient pas. De même, les êtres ne connaissant pas en éducation que trois dimensions, comme les hommes, ne conçoivent point qu'il est aussi aisé de sortir grâce à la quatrième dimension d'une chambre murée qu'il ne serait pour les souris japonaises de franchir les bords d'un plateau ou que l'on puisse, dans le temps, lorsque l'on est vieux, se réveiller soi-même enfant, malade, au chevet de son bureau, ou dans l'espace, s'entendre sonner à la porte et se voir entrer dans la chambre où l'on est assis. Toutefois, quant à la fin de la seconde période scientifique, l'idée pratique de la quatrième dimension se fit jour parmi les hommes, on ne tarda pas à comprendre que là seulement ne se bornerait point le problème que ces nouvelles idées sur l'espace devaient modifier d'autres phénomènes. Le monde des rêves attira tout aussitôt l'attention des chercheurs et des savants. Et l'on comprit bien vite que ce monde insaisissable, réel cependant, où depuis des siècles l'humanité se réfugiait dans un bon tiers de la vie, n'était en somme qu'un monde à deux dimensions, et que c'était pour cette seule raison que les événements qui s'y déroulent n'avaient eu aucune action direct sur le corps humain. Volontiers, les hommes avaient pris l'habitude, en rêve, de fuir devant des dangers imaginaires, d'échapper à des catastrophes, de déjouer avec angoisse les entreprises terribles des assassins. Mais cela n'était, à le bien prendre, qu'un jeu. Et après quelques secondes de terreur, il suffisait à l'homme de se réveiller, de reprendre ses sens à trois dimensions, pour comprendre que tout cela n'était qu'une chimère et sans importance. Le jour, cependant, où l'humanité commença à s'accoutumer peu à peu, petit à petit, à l'idée de la quatrième dimension, ses facultés se trouvèrent extraordinairement surexcitées. Et ces accidents singuliers se produisirent bientôt en rêve. Il y eut des gens que l'on ramassa au matin, coupés en deux dans leur lit par les roues d'une locomotive. D'autres qui se trouvèrent, étant après une nuit de cauchemar, marchant fiévreusement au plafond, et la tête en bas, et les pieds en l'air. Il y eut aussi un gros homme que l'on découvrit dans son lit, écrasé, allongé comme par un incroyable laminoir. Et l'on sut que, depuis longtemps, cet homme rêvait d'un immense escalier, lentement envahi par une inondation de plomb fondu, et qui aboutissait dans le rocher à une minuscule petite trou de souris qui se trouvait être la seule issue dans un colossal palais de rêves. Ces différents événements, étant donné l'extrême gravité qu'ils présentaient, attirèrent l'attention du monde des savants. On choisit parmi les familiers de la quatrième dimension quelques sujets qui furent chargés d'aller examiner méticuleusement le monde des rêves et de se rendre compte par eux-mêmes des déroutants événements qui s'y passaient. Ils en revinrent fort effrayés après quelques mois d'observation. L'un d'eux, malgré une défense très énergique, avait eu le bras droit dévoré par un crocodile à vapeur au corps de vache. Un autre avait passé toute sa nuit à porter en courant de petits bagages d'un poids fabuleux et allait déménager d'un train dans un autre. Il avait été ensuite dépouillé de tous ses vêtements et des os de son squelette en pleine campagne par un troupeau de nuages blancs qui s'étaient montrés imperturbables et impitoyables. Ainsi donc, ce phénomène nouveau ne peut être mis en doute. Les rêves qui jusque-là avaient été faire le charme de la vie, qui durant l'ennuyeuse période scientifique avaient remplacé à eux seuls les contes de fées d'autrefois, les rêves que les enfants attendaient avec joie en se cachant, se couchant le soir, les rêves devenaient rares, relevés, présentaient pour l'homme le plus formidable danger qu'il ait jamais couru. À force d'extérioriser son imagination, de rechercher toutes les joies que peut donner l'usage de la quatrième dimension, l'homme n'avait point pris garde à la troisième dimension qu'il introduisait petit à petit, instinctivement, dans ses rêves, et il leur donnait toute la dangereuse réalité de la vie quotidienne. Certains bravaches, des poètes, comme il s'en trouve toujours, se déclarèrent enchantés de l'aventure et entreprirent des chasses fabuleuses, dignes de la mythologie, et réalisèrent toutes les actions héroïques que les anciens, par un étrange pressentiment, avaient seulement imaginées en rêve. Fort de l'impunité que leur donnait l'entière possession de la quatrième dimension, ils se livrèrent à tous les excès dans leur nouveau rêve à trois dimensions. Ils s'amusèrent à heurter de front des trains lancés à toute vitesse. Ils se jetèrent du haut de monuments élevés, se précipitèrent sur des épées, se firent attacher devant la gueule de canons chargés. Partout, ils s'amusèrent à tailler en pièces des armées entières, à demeurer intactes sous une fusillade intense. Parfois, ils se donnèrent l'exquise sensation de pénétrer seuls et non armés dans les sombres souterrains de châteaux peuplés de fantômes, encombrantes, très encombrantes. Au matin, on retrouvait dans la maison des voyants tout un amas de wagons broyés, de chair sanglante, et parfois aussi les coups de canon ou des fusillades matérialisées à trois dimensions atteignaient d'inoffensifs passants et mettaient le feu à des quartiers tout entiers. On fut donc obligé d'édicter à cette époque une sévère réglementation contre les dormeurs capables de se maintenir en rêve à quatre dimensions et de les contraindre à prendre chaque soir une potion spéciale et inaperçue. Ça, et on ne permit plus que les excursions dans l'espace ou dans le temps qui, elles au moins, passaient inaperçues, demeurait invisible et ne gênait personne.